like many movies. I watch many movies.
J'aime les films et j'en vois beaucoup, tu sais. Il y a beaucoup de héros dans les films. Il y a Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, le Scorpion Rouge. Tu sais, il y a plein de héros et ils peuvent tous se battre.
Comme la plupart des enfants du Liberia, Abraham adore les films de guerre. Il a 11 ans, il a la démarche lourde, le visage fermé et des cicatrices profondes aux jambes et au ventre. Pour un garçon de son âge, il est étonnamment musclé. De toute évidence, c'est un dur. Quand nous l'avons rencontré à la sortie d'un cinéma, il imitait avec de grands gestes acrobatiques une bataille imaginaire à la Jean-Claude Van Damme. À Monrovia, la capitale du Liberia, il y a des dizaines de salles obscures bondées de gamins qui dévorent des vidéos pirates sur des écrans de télévision poussiéreux. Au programme, Rambo, Schwarzenegger et compagnie. À l'extérieur, le décor de guerre est pourtant bien plus réaliste. Partout, des immeubles sont éventrés par les obus, les murs troués par les tirs d'armes automatiques, les rues jonchées de carcasses de voitures et d'autobus rouillés. Il y a des barrages militaires gardés par des soldats cachés derrière des piles de sacs de sable. Les gens vivent sans eau courante, assommés du matin au soir par le vacarme des groupes électrogènes. Pour Abraham, les films de guerre made in Hollywood sont une façon de s'évader et de se détendre. Parce que la vraie guerre, c'est autre chose. La vraie guerre, c'est toute sa vie.
Ma famille, tu sais, quand la guerre est arrivée, ils ont tous disparu. Ils ont tué mon père. J'étais là, j'ai tout vu. Ils ont tué mon père et ma sœur. Ma mère s'est enfuie et je ne l'ai plus revue. À ce moment-là, je suis parti dans la brousse pour aller combattre. Je voulais venger mon père et ma sœur.
Ce jour-là, tout bascule pour Abraham. Il a 7 ans, il est seul au monde et se réfugie dans la brousse où il vit comme une bête traquée. C'est là qu'il rencontre un homme qui va changer sa vie. Il est grand et mince, à peu près de l'âge de son père. Cet homme lui sourit et lui parle doucement, les yeux cachés derrière de larges verres fumés.
Our name is Colonel Mother Blessing.
Mon nom de guerre est Colonel Mother Blessing.
Because I bless women and children.
On m'appelle Mother Blessing parce que je protège les femmes et les enfants. Et je protège les gens innocents.
So there was nobody to help.
Il n'y avait personne pour aider Abraham.
So I decided to help him.
Alors, j'ai décidé de l'aider.
Mother Blessing offre à Abraham ce dont il a le plus besoin, 2 repas par jour et la protection de l'ULIMO. C'est le Mouvement Uni de Libération pour la Démocratie, une des 2 principales factions armées libériennes. À la base de l'ULIMO, le commandant vit avec 6 femmes qu'il a fait prisonnières et il dirige des centaines d'hommes et de garçons. Abraham est trop petit pour voir ce qui se cache derrière sa famille d'adoption. Le colonel Mother Blessing, son nouvel ange gardien, est à la tête d'un escadron de la mort.
Okay, he was a special aide to me. He used to bring water for me to take bath.
Au début, il était mon aide de camp. Il apportait de l'eau pour mon bain. Il cuisinait ou lavait mon uniforme. Parfois, je démontais mon arme et je lui disais, Hitler the killer, nettoie-la. Il apportait de l'essence, il lavait le percuteur et la détente. Et après, il a été conduit à notre base principale. Nous lui avons fait subir un entraînement de 2 mois. Comment tirer, comment se camoufler, que faire lorsque l'ennemi s'approche et comment l'infiltrer.
Quand ils ont vu ce que je pouvais faire, ils m'ont donné un fusil. On l'appelle Sœur Beretta. C'est une mitraillette. Ils m'ont dit que je devais surveiller les rebelles, que je devais les prévenir lorsque des gens s'approchaient avec des armes à feu.
On décide qu'Abraham est apte à passer à l'action. On lui présente sa petite mitraillette comme on le ferait d'un ourson en pluche, en disant « Voici Sœur Beretta ». Sœur Beretta, c'est ce qui explique en partie que les enfants soient recrutés de plus en plus jeunes pour faire la guerre. Les marchands d'armes ont mis au point des engins petits et légers, presque aussi faciles à manier que des jouets.
Au début, je leur donnais des G3, mais ces mitraillettes sont très longues. Alors j'ai décidé de leur donner des AK-45, des AK-48, des AK-59 et des Beretta. Parce que c'est court, beaucoup plus court. Les G3 ou les M16 traînaient par terre. Quand ils les soulevaient, le sable entrait à l'intérieur et ils s'enrayaient. Deuxièmement, ils étaient trop lourds pour eux. Et lorsqu'ils tiraient avec le G3, le recul était trop brusque. Par conséquent, les enfants n'arrivaient pas à le maîtriser.
Les combats au Liberia se déroulent dans des forêts marécageuses où il pleut 10 mois sur 12. C'est une guerre barbare qui a des allures de carnaval macabre. Pour se détacher des atrocités qu'ils commettent, les combattants s'inventent des personnages. Certains portent des masques, d'autres se déguisent en femmes, et la plupart ont des surnoms de bandes dessinées. Pour son baptême du feu, Abraham, lui aussi, change de peau. Son colonel lui donne le nom d'un dictateur que l'enfant ne connaît pas. Il sera Hitler the Killer, Hitler le tueur.
I have about 176 of Hitler the Killer.
J'ai 176 garçons comme Hitler the Killer. Certains ont 9 ans, 10 ans, certains ont 11 ans, le plus vieux a 12 ans. Je les envoie en reconnaissance. Et quand nous passons à l'assaut, ce sont eux qui sont en première ligne.
Pour le colonel Mother Blessing, Hitler a un avantage de taille. Il mesure à peine 1 mètre. En fait, il est si petit que personne ne s'en méfie. Ce qui est bien sûr idéal pour des missions d'espionnage.
Je fais appel à Hitler the Killer pour des missions spéciales. Je lui donne de l'huile et du riz pour qu'il aille les vendre derrière les lignes ennemies. Sur le front, il observe bien l'ennemi. Et plus tard, pendant la nuit, il s'échappe et revient à la base. Il me dit, « Me voici, colonel. C'est Hitler the Killer de l'Olimo. » Je lui dis, « Ok, rentre. » Le lendemain matin, je fais encore appel à lui. Je dis à mes troupes, « Faut passer à l'action. J'ai besoin de 100 hommes comme Hitler the Killer. » pour abattre tous les obstacles que je désignerai. Et ils abattent tous les obstacles que je désigne.
Comme beaucoup de soldats libériens, Mother Blessing se défonce à la poudre à canon. La poudre, il la retire des cartouches de munitions, il la fait brûler et la fume mélangée à du hashish. Il paraît que ça rend très violent.
La nourriture comme le riz, la viande, nous l'avons. Mais ce dont ils ont surtout besoin, ce qui peut les satisfaire, c'est la marijuana. Parfois, je l'achète en sac. Je l'achète au kilo. Et chaque fois qu'ils terminent une opération, ils viennent me voir et me disent, « Colonel Mother Blessing, qu'est-ce que vous avez pour nous, commandant ?» Je dis, « Ok, voilà de la marijuana. Voici des cigarettes. » Parce que vous êtes trop petit pour prendre de la poudre à canon. Je m'assure qu'ils sont récompensés chaque fois qu'ils remplissent leur mission.
Au fil du temps, des liens se sont forgés entre Mother Blessing et son jeune protégé. Un matin, au moment de l'attaque surprise d'une faction rivale, Hitler a eu l'occasion de lui prouver sa loyauté.
Quand mes soldats ont vu l'ennemi s'approcher, ils se sont enfuis et m'ont laissé seul dans la maison où je dormais. Mais Hitler the Killer a été assez courageux pour courir et venir m'avertir. Quand il est arrivé à ma porte, il a été touché à la jambe et il est tombé. Il a crié « Colonel Mother Blessing !» Alors je me suis réveillé. Quand j'ai mis la tête dehors, l'ennemi a tiré une roquette contre la porte. Vous savez, c'est une bombe. En explosant, les éclats m'ont tranché la gorge, ici. Et ils m'ont cassé les dents, vous voyez? Alors je suis tombé. Mais Hitler the Killer a continué de ramper. Même s'il était touché, il a rampé jusqu'à moi et m'a serré dans ses bras. Je lui ai dit, « Trouve quelque chose pour que je m'essuie le visage. » Toute ma tête était en sang. Ensuite, nous sommes sortis par la fenêtre et nous avons marché 45 minutes dans la brousse jusqu'à nos troupes. C'est pour ça que depuis ce jour, je veux qu'il soit toujours avec moi. Parce qu'il m'a sauvé la vie.
Généralement, les enfants soldats gagnent leur galon en commettant des atrocités. Hitler, lui, doit sa promotion à cet acte de courage. Remis de ses blessures, il devient garde du corps de son colonel. Il a même droit à son propre aide de camp.
Moi et un autre garçon, on est à peu près de la même taille. C'est moi le chef. Si je suis prêt à partir au combat, je le laisse derrière. Je lui dis, monte la garde. Si tu vois des gens qui s'approchent, préviens mon patron. Il les tuera. Ils peuvent venir nous attaquer. Et on ne peut pas les laisser nous tuer comme ça.
Un jour, une coïncidence incroyable se produit. Comme s'il avait écrit le scénario lui-même, Hitler a l'occasion de régler ses comptes.
L'homme qui a tué mon père, je l'ai revu. Il était dans la brousse. Il voulait m'attaquer. Il a dit, « Toi là-bas, j'ai tué ton père et je suis venu te tuer. » J'ai dit, « Tu ne peux pas me tuer. Je vais te tuer moi aussi. » Dans son fusil, il n'avait pas de chargeur. Toutes ses munitions étaient épuisées. Il s'est approché. Il a pointé son arme vers moi. Quand il a tiré, ça ne m'a rien fait. Alors je l'ai tué.
En fin d'après-midi, une procession de Mercedes aux vitres teintées fonce à toute allure dans les rues de Monrovia. Les seigneurs de la guerre rentrent chez eux. Depuis les derniers accords de paix et en attendant la tenue d'élections, les chefs de faction ont troqué leur tenue de camouflage pour des complets trois pièces. Ce sont eux qui forment le gouvernement de transition au Libéria. Des messieurs à l'allure respectable qui utilisent près de 20 000 enfants, comme Abraham, dans leurs armées. Parmi eux, Elliot Bleedy représente le camp de Charles Taylor. Il parle de ses enfants soldats comme d'une chose parfaitement naturelle, ce qui est révélateur de l'état d'esprit des dirigeants actuels.
They were manual servants in terms of the war machine.
Au début, les enfants ne faisaient que ravitailler la machine de guerre. Mais ils se sont tellement impliqués dans les combats qu'ils sont aujourd'hui considérés comme les soldats les plus efficaces.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment se comportent-ils aux soldats adultes?
Je suppose qu'un psychologue vous dirait qu'un enfant de 10, 11, 12, 13 ans ne saisit pas ce que représente la mort, parce qu'il ne connaît pas encore la valeur de la vie. Alors, lorsque vous cherchez quelqu'un pour accomplir une mission, pour prendre une position ennemie, vous voulez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui n'aura pas peur, qui ne sera pas préoccupé par sa femme ou son enfant à la maison et qui fera ce qu'il a à faire. Et on s'est rendu compte que les enfants font ce qu'ils ont à faire. Ils obéissent aux ordres à cause du contexte traditionnel ici au Libéria, du respect qu'on doit porter aux aînés. Alors si un commandant dit à un gamin d'attaquer un village ou un véhicule blindé, « Fais ceci ou fais cela », eh bien l'enfant obéit, parce qu'il ne pense pas aux conséquences de ses gestes. Il ne réalise pas qu'il peut mourir. Il ne sait pas que s'il lance cette grenade et que le véhicule blindé explose, il y a des gens à l'intérieur qui vont mourir et que leurs femmes ou leurs familles en seront affectées. Il ne pense pas. Il pense seulement à l'action qu'il doit accomplir.
Et
ça se résume à ça. Dans la brousse, dans une guérilla, ce sont les soldats les plus efficaces. Ils ne sont pas de ceux qui vous poseront des questions idéologiques ou qui voudront savoir pourquoi ils se battent. Ils obéiront.
La guerre du Libéria a repoussé toutes les limites de la manipulation des enfants. On a beau penser à la drogue, à la folie meurtrière qui s'empare parfois des combattants dans les guerres civiles, on n'arrive pas à concevoir comment des adultes comme Mother Blessing peuvent entraîner des enfants dans une telle déchéance.
Like me, I'm 29 years old. I have one daughter.
Moi, j'ai 29 ans. J'ai une petite fille. Alors quand je fais quelque chose, j'y pense. Mais quant à eux, ils ne se soucient de rien. Ce que je leur dis de faire, ils le font. Quand je leur dis « arrachez le cœur de cet homme », ils l'arrachent et ils me l'apportent encore battant. Ils disent « colonel, voici le cœur ». Je leur dis « apportez-le au patron ». Et c'en est fini avec ça. Je leur achète des cigarettes, de la marijuana, je leur donne un peu de riz et c'est tout.
Et qu'est-ce que vous faites avec le cœur?
Chaque cœur est apporté au général poivre et sel. C'est lui qui décide s'il doit être mangé ou jeté. Il prend la décision.
What does it give you when you et ça vous fait quoi de manger le cœur d'un ennemi?
Ça vous empêche d'avoir peur de quiconque. Ça vous rend brave et fort. Lorsque vous entendez des coups de feu, vous courez au front. Ça vous rend hyper agressif. Voilà ce que ça fait.
Un jour, Hitler a été curieux de savoir s'il y avait autre chose que la guerre. En sortant de la brousse, il savait bien qu'il risquait de tomber sur les Nigérians, Ghanéens et autres militaires membres de l'ECOMOG. L'ECOMOG, c'est la force d'interposition ouest-africaine qui essaie de désarmer les soldats libériens.
J'en avais assez. J'ai dit que je voulais venir en ville. J'ai marché sur la route. Les Comog étaient là. Ils m'ont attrapé. Tu sais, ils m'ont pris mon arme. Ils m'ont attaché les mains derrière le dos et ils m'ont mis dans le camion. Ils m'ont emmené à leur base et m'ont mis en prison. Le lendemain matin, ils nous ont battus, moi et mes amis. 25 coups de fouet. Ensuite, ils m'ont libéré et je suis venu en ville.
Il y a quelques mois, Abraham s'est ajouté à la foule de miséreux qui encombrent les trottoirs de Monrovia, des malades mentaux et de jeunes mendiants qui prennent d'assaut les voitures et les passants. Mais il a retrouvé sa grand-mère, qu'il va voir de temps en temps. C'est elle qui lui a appris que sa mère était morte, elle aussi.
Ibi est un bon garçon. Il ne vole pas. Il ne peut pas voler. Je veux bien m'occuper de lui pour qu'il soit ici avec moi. Mais Ibi quitte la maison et il traîne dans les rues. Alors je l'appelle, je lui parle, je lui dis « Assieds-toi. Ibi, maintenant, écoute-moi. » Mais il ne m'écoute pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant?
Cette vieille dame vit dans une baraque délabrée où on se demande bien comment elle pourrait accueillir Abraham. Elle a déjà 10 enfants sur les bras.
Il est ici parfois. Il va aussi à cet endroit, là-bas, là où il y a des gens, à l'ambassade, et sur Broad Street.
Pour faire quoi?
Comment je le saurais? Vous avez vu où je travaille? À l'aube, je pars au marché pour vendre mes produits. J'y passe toute la journée. Et après, je reviens ici.
La grand-mère d'Abraham ne se doute de rien et ne sait pas que son petit-fils a combattu. Quand on le voit embrasser un bébé ou s'amuser avec un ballon de football, c'est d'ailleurs, et de toute évidence, le bon garçon auquel elle croit. Abraham lui a dit qu'il avait passé les dernières années au Ghana avec des réfugiés libériens. Et il n'est pas question qu'il lui révèle son secret.
Elle va salir mon nom devant mes amis. C'est pour ça que je ne veux pas lui dire. Elle va éloigner mes amis. Ils seront fâchés contre moi. Tu sais, ils ne voudront plus me parler. Ils vont croire que je suis mauvais et que je vais les tuer. Tu vois, ils ne voudront plus s'approcher de moi.
Je crois qu'il en parle seulement à quelques amis qui se taisent. Il respecte son secret.
Le travailleur social Joe Hina travaille auprès des enfants de la rue pour Don Bosco, une organisation religieuse de Monrovia. Il voit souvent Abraham sur le toit de l'immeuble abandonné où il dort avec une cinquantaine d'autres garçons. Il dit qu'il le connaît depuis longtemps, mais il ne sait pratiquement rien, lui non plus, de son histoire.
De toute évidence, Ebi a besoin d'une thérapie. Il ne se comporte pas comme un enfant normal de 10 ou 11 ans. Il agit comme un adulte. Il ne me parle pas de certaines choses. Pourquoi ? Ce n'est pas normal qu'un enfant de cet âge refoule ce qu'il a fait pendant si longtemps.
Abraham, avec son prénom juif et son surnom de dictateur nazi, est un enfant déchiré. Il dit qu'il n'a pas tué beaucoup de gens, à peine une dizaine, mais leur souvenir hante ses nuits.
Je rêve aux gens que j'ai tués. Je rêve à eux et je vois leur visage. C'est pas bien, parce que je les ai tués. C'est pas bien, mais je voulais combattre parce que les gens m'ont presque tué.
Tu pleures parfois?
Oui, parfois. Je m'assois et je pense aux gens que j'ai tués.
Mother Blessing fait lui aussi des cauchemars en revivant un massacre auquel il a participé avec Hitler.
Nous ne les avons pas tués avec des armes à feu. Nous les avons tués au couteau. Nous leur avons tranché la gorge, ouvert l'estomac et coupé le sexe. Après cette mauvaise tuerie, quand j'allais me coucher, je rêvais. Je tournais et je me retournais dans le lit et je criais « Hé, au secours !» Alors ils me secouaient et disaient « Oh, réveille-toi, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe ?» Je répondais « Non, ce n'est rien. Je veux juste fumer un peu de poudre à canon. »
Mother Blessing vit toujours dans la brousse. Quand il vient en ville, il revoit parfois son ex-garde du corps.
Hitler le killer n'est pas assez vieux pour combattre. Mais comme il a perdu sa mère et son père dans la guerre, il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Alors, il devait rejoindre la lutte armée pour vivre librement.
Vous pensez qu'en l'utilisant, vous l'avez aidé?
D'une certaine façon, nous l'aidons à survivre. D'une certaine façon.
When you tell a Hitler killer, mais quand vous lui dites « Capture cet homme, tue-le, arrache-lui le cœur de la poitrine », croyez-vous l'aider?
Maintenant, nous ne nous battons que pour détruire, pour tuer. C'est notre raison d'être sur la ligne de front. En lui apprenant à tuer, je crois que je l'aide à 100% pour qu'il n'ait plus peur de la mort, pour qu'il se débarrasse de ses peurs, parce qu'il va mourir lui aussi. Je vais mourir. Nous allons tous mourir. Mais si notre heure n'a pas encore sonné, on ne meurt pas. Si je dis à Hitler de Killer, Hitler de Killer, je veux que tu reviennes dans mon escadron de la mort, et qu'il me réponde, Colonel Mother Blessing, je ne le ferai pas, c'est sûr que je le tuerai. Ça voudrait dire qu'il est mon ennemi, ou qu'il pourrait aller raconter ce que nous préparons. Alors pour cette raison, je ne le laisserai pas partir. Il y a un dicton qui dit, ne laisse pas partir un homme que tu as blessé.
Mother Blessing est persuadée d'avoir toujours la même emprise sur Abraham. Mais quand son chef a le dos tourné, celui-ci chuchote qu'il n'est pas intimidé, parce qu'il pense qu'en ville, l'écomog assure sa protection.
S'il me dit d'y retourner avec Chtino, il ne peut rien me faire, parce que nous ne sommes pas dans la brousse. Nous sommes ici. Et s'il fait quelque chose ici, tu sais, ils vont l'attraper.
Abraham ne dit jamais de mal de son ancien commandant, mais lentement, il s'en détache. S'il a appris quelque chose de la guerre, c'est que Mother Blessing et Sœur Beretta ne remplaceront jamais sa famille. Comme tous les enfants, il veut enfin apprendre à lire et à écrire et devenir quelqu'un de bien. Et comme des milliers de petits vétérans de la guerre du Liberia, il rêve de trouver une fin heureuse à son histoire. Une histoire qui ressemble beaucoup à son film préféré.
C'est un petit garçon, tu sais. Il ne savait pas se battre. Les gens venaient et le battaient. Il retournait à la maison pour le dire à sa mère. Son père avait une bague. Une bague magique. Une fois, des gens ont attaqué son père et un homme lui a tiré dessus avec un fusil. Avant de mourir, il a pris la bague et l'a mise au doigt de son fils. Et là, le garçon est devenu très fort. Il les a battus et il les a tous tués.
Et comment s'appelle le film ?
C'est le pouvoir de l'amour. C'est un petit garçon. C'est lui le héros dans le film.